Vous écoutez, on lit pour vous.
Ça peut arriver à n'importe qui. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 13 mai 2024 dans La Presse. L'idée m'est venue pendant un dîner récent dans un restaurant où je partageais une table avec une demi-douzaine d'inconnus. Le genre de repas semi-exotique, avec plats flambés et acrobaties culinaires qui aurait dû me remonter le moral. Il m'a plutôt découragée. Vraiment beaucoup. À nos côtés, un couple fortuné de la Naudière. Deux sexagénaires décomplexés qui ont passé une partie de la soirée à déverser leur fiel sur les maudits itinérants. Ils se sont rendus jusque dans le vieux Terrebonne. Ils font venir leurs amis chez nous, tous des drogués. Des sous-humains à leurs yeux, qui devraient rester cordés dans un enclos à Berry-UQAM ou être déportés vers une île lointaine. J'ai voulu mettre au moins un visage sur ces milliers d'anonymes qui errent dans les rues du Québec et qu'on ne remarque souvent même plus. Et si on revenait 4 ans en arrière, Vicky Harvey aurait pu être l'une des sans-abri qui fumaient leur crack dans le vieux Terrebonne. Ça ou la cocaïne, ou l'héroïne, ou n'importe quelle autre des substances qu'elle consommait, jour après jour, pour engourdir sa douleur. La femme de 42 ans m'a accueillie dans son lumineux 4,5 du quartier Saint-Henri, à Montréal, pour me livrer son histoire sans filtre, avec générosité. Vous comprendrez qu'elle s'est sortie de la rue grâce à un élément crucial que je vous révélerai plus loin. Vicky Harvey me l'a dit à plusieurs reprises. Ça, la drogue, la prostitution, l'itinérance, le chaos, ça peut arriver à n'importe qui. Pour la native du lac Saint-Jean, très éloquente et politisée, le lent dérapage commence à 17 ans. Après une grossesse inattendue et le transfert du bébé à sa mère. Un ami lui fait découvrir la coke qui devient vite sa drogue de prédilection. Son parcours des années suivantes ne sera pas linéaire. Il y aura des allers-retours entre la toxicomanie et la sobriété, des déménagements en Abitibi et dans le nord du Québec pour s'éloigner des tentations. Un retour aux études, plusieurs emplois dans des bars et des restaurants, d'autres en comptabilité. Un saut en politique même. En 2006, après avoir posé ses pénates dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Vicky Harvey sera candidate aux élections fédérales pour le Parti libéral du Canada. Elle arrivera au deuxième rang, derrière le bloquiste Réal Ménard. Malgré la drogue et l'alcool qui deviennent de plus en plus envahissants, elle poursuit sa vie en société et a un autre enfant. La plupart des gens autour d'elle n'ont aucune idée des démons qui la rongent, entre autres son entourage politique. La grande cassure se produit à l'âge de 31 ans. Après avoir perdu son emploi en fiscalité, elle devient « barmaid » dans un club de danseuses nues. Puis, elle se met à danser. Puis, elle commence à se prostituer pour payer sa consommation grandissante et son proxénète, qui est aussi son conjoint manipulateur de cerveau. C'est à cette époque, enceinte d'un troisième enfant, qu'elle perd son logement pour devenir officiellement sans domicile fixe. En 6 mois, ça va descendre vraiment vite, explique-t-elle. C'est un crash, littéralement. Après des années d'efforts pour garder la tête hors de l'eau, là, le corps n'en peut plus. Le cerveau n'en peut plus. Et tout lâche. Vicky Harvey et moi avons discuté pendant près de 2 heures. Elle m'a raconté une foule de détails sur les années qui ont suivi cette grande brisure. La découverte du crack. La vente de stupéfiants, la violence constante, les tentatives de suicide, la prison, la quatrième grossesse. Elle a fréquenté des refuges pour femmes, dormi dans des entrées d'immeubles, sur des tables de Tim Horton, sur des sofas d'amis. Une itinérance en bonne partie invisible qui n'apparaît pas dans les statistiques. L'épisode aura duré 3 ans dans son cas. Le grand déclic s'est fait lorsqu'elle a senti avoir vraiment atteint le fond du baril. Il y a 3 ans et demi. Cette fois, elle était prête à reprendre sa vie en main. J'ai fait mon sevrage à sec, mais je peux te dire que pour une fille qui était capable de boire un 40 onces de Jack Daniels, c'est raide, raconte-t-elle avec aplomb. J'aurais pu mourir. J'étais couchée dans un char, mais j'ai eu la sagesse d'appeler l'ambulance. J'ai dit, je suis à tel coin de rue, je vous attends là. C'est toute la chaîne d'entraide qui s'est ensuite mise en branle. Un intervenant de rue l'a dirigée vers un sous-sol d'église. L'organisme Le Chaînon a pris le relais. Elle a été hébergée quelques mois à l'Abri d'Espoir, un centre pour femmes, avant d'obtenir un logement transitoire à la mission Bon Accueil. Un vrai logis où elle aurait pu rester pendant 3 ans. Le fait d'avoir un toit lui a permis de bûcher sans relâche, comme une fille du lac, sur sa rémission, sur l'amélioration de son sort et celui de ses enfants. Elle avait dans sa ligne de mire un immeuble récent de Saint-Henri. C'est là que je voulais habiter. Où elle a réussi à décrocher un appartement moderne il y a 1 an et demi. Elle paie 307 $ par mois, soit 25 % de son salaire, grâce aux subventions gouvernementales pour les gens à faible revenu. La vie se retisse et se reconstruit peu à peu, malgré toutes les pilules qu'elle doit prendre pour gérer son anxiété et son stress post-traumatique. Le combat pour maintenir la sobriété est quotidien. Le café est son nouveau stimulant de choix. Vicky Harvey m'a montré fièrement les premiers meubles neufs qu'elle a achetés dans sa vie. Des sofas et un set de chambre. Elle m'a parlé de son emploi comme pâtissière dans un collège de Montréal, du jardin qu'elle souhaite aménager avec ses voisins, de ses finances. « Je veux me faire un budget et mettre des sous de côté dans un REER. C'est pas gros, c'est 50 piastres aux 2 semaines, mais c'est quand même ça. » Voilà donc l'histoire d'une personne, une droguée, comme auraient dit mes voisins de table, qui a joliment repris sa vie en main. Tous les sans-abri n'ont pas cette possibilité. Plusieurs souffrent de troubles mentaux graves et d'une kyrielle de problèmes connexes. La réinsertion n'est pas possible pour tous, mais c'est sain de se rappeler, une fois de temps en temps, que ces multipoqués sont des humains, il me semble. Car le discours, à mots couverts ou pas, est souvent déshumanisant. Dans tous les cas, il y a un élément incontournable pour espérer sortir les gens de la rue. L'accès à un logement, qu'il soit autonome ou supervisé par des intervenants. Nous sommes bien loin du compte. C'était « Ça peut arriver à n'importe qui ». Un texte de Maxime Bergeron, paru le 13 mai 2024 dans La Presse.
L'itinérance augmente en région, selon les policiers. Un texte de Maïssa Ferrat, paru le 9 mai 2024 dans La Presse. La hausse de l'itinérance se fait sentir en dehors de la métropole. Les corps policiers notent depuis 3 ans une forte augmentation de la présence de sans-abri en Outaouais, en Montérégie et en Estrie. L'itinérance n'est pas un problème de sécurité publique, c'est un problème social. Nous savons qu'actuellement, le contexte social est difficile pour bien des gens, estime Pierre Brochet, chef de la police de Laval et président de l'Association des directeurs de police du Québec, ADPQ, au cours d'un point de presse. Depuis 2021, l'itinérance prend de l'ampleur dans les municipalités du Québec. L'ADPQ a demandé aux corps policiers un aperçu de cette augmentation. Conclusion. Les policiers des régions de l'Outaouais, de la Montérégie et de l'Estrie ont observé une hausse fulgurante du phénomène de l'itinérance depuis 2021. La ville de Sherbrooke a d'ailleurs mis en place deux personnes à temps plein qui font la tournée des ressources et des campements. Il y a deux semaines, les agents ont sauvé un homme intoxiqué par une bonbonne de propane qu'il gardait dans sa tente, illustre d'ailleurs François Lemay, président à la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. C'était « L'itinérance augmente en région selon les policiers », un texte de Maïsa Ferrat, paru le 9 mai 2024 dans la presse.
Grants Pass, la petite ville d'Oregon au cœur des débats sur l'itinérance aux États-Unis. Un texte de Fabien Deglise, paru le 29 mai 2024 dans Le Devoir. Des chiens, des voleurs, des intimidateurs! En ce matin de mai, dans un parc de la petite ville de Grants Pass, dans le sud de l'Oregon, David Rich, 41 ans, ne décolérait pas à la vue d'une voiture de police passant à basse vitesse tout près de lui. La deuxième en moins de 10 minutes. « C'est du harcèlement », a laissé tomber le vétéran de la guerre en Irak, qu'un problème de consommation de drogue dure a envoyé dans la rue il y a plusieurs années. Il assure aujourd'hui être propre et ne consommer que du cannabis légal, même s'il continue de vivre sans domicile fixe, dans une tente parfois plantée dans le parc Morrison, parfois dans un autre parc. « Ils m'ont volé ma guitare, ces chiens! Tous les 3 jours, ils débarquent pour nous donner des contraventions et nous forcer à changer notre campement de place. Nous ne sommes que des sans-abri. Ce n'est pas par choix que l'on vit dehors et on devrait pouvoir le faire librement. Mais eux, ils nous traitent comme des criminels, » ajoute l'homme, un ex-charpentier, qui a ironiquement contribué à la construction de 40 maisons dans la ville. Et peut-être même plus, ajoute-t-il. Au cœur de l'Oregon rural, Grants Pass, une ville à peine plus grande que Sorel Tracy, a tous les attributs d'un endroit paisible et charmant, avec son cœur traversé par la rivière Rouge et son climat tempéré arrosé de soleil près de 200 jours par année. Un coin ronronnant, planté au milieu des montagnes, mais qui se retrouve malgré lui au centre de l'attention depuis quelques semaines aux États-Unis en raison du traitement jugé cruel qu'il impose à ses itinérants. La cause, portée par une action collective de sans-abri, a atterri ce printemps devant la Cour suprême américaine. Un verdict, le plus important sur la question de l'itinérance depuis près de 4 décennies aux États-Unis, est attendu dans les prochaines semaines. Grants Pass est devenu un symbole de la ségrégation des itinérants. Laisse tomber Casey Leach. L'infirmière travaille bénévolement pour l'organisme local Mint, qui vient en aide aux personnes vivant dans les rues de la ville. L'Amérique rurale ne sait pas comment faire face au sans-abrisme. Elle lui oppose généralement la répression, les contraventions, le harcèlement, qui ne font que déplacer le problème de parc en parc ou dans la ville voisine. Cela ne crée pas les logements dont ces personnes ont besoin. Et finalement, cette stratégie ne mène nulle part. Après plusieurs semaines d'audience tenues en avril et en mai, le plus haut tribunal du pays va devoir se prononcer sur la décision d'une cour d'appel fédérale qui, en 2022, a imposé un moratoire à Grants Pass sur l'application de trois règlements municipaux interdisant de dormir et de camper dans les parcs, dans les rues et dans les ruelles. Des interdictions qui, selon ce jugement, ne sont pas justifiables en raison du manque d'abris et de logements abordables disponibles pour les personnes vivant sans toit sur le territoire de la ville. Entre 600 et 1000 personnes habitent aujourd'hui dans les rues de cette petite communauté de 39 000 habitants, estime l'organisme Mint, qui déploie une fois par semaine ses bénévoles dans les parcs pour leur offrir des repas et de l'aide afin de les aider à sortir de la spirale de l'itinérance. Les policiers locaux disposent toutefois d'autres règlements sur le stationnement, sur la gestion des ordures, sur le bruit, sur le flânage, pour continuer à rendre la vie difficile aux sans-abri. Pénurie de logement. Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont conduit là. Pas un choix de vie, raconte Aaron dans la jeune trentaine. Il est assis dans une camionnette en mauvais état qui est devenue son refuge depuis 3 mois. Il l'a stationné sous le pont chevauchant le parc Riverside. Il dit vivre de petits boulots d'entretien sur les terrains des résidents du coin depuis qu'il est arrivé au bout des aides auxquelles il avait droit. Les loyers ont explosé ici dans les dernières années et l'offre de logements à faible coût a complètement disparu. C'est difficile pour les personnes comme moi qui vivent ici depuis plus de 20 ans avec des faibles revenus, explique-t-il. Dans une entrevue accordée à la station locale de NBC, la mairesse de Grants Pass, Sarah Bristol, a admis que toute cette histoire se résume à une question de logement non disponible et à l'administration précédente qui a adopté, en 2019, des mesures visant à compliquer l'existence des itinérants pour les inciter à quitter la ville. La petite ville de l'Oregon a d'ailleurs un triste héritage de répression et d'intolérance ciblant les Afro-Américains, surreprésentés dans l'itinérance aux États-Unis. Elle a été un des berceaux fertiles du Ku Klux Klan dans les années 1920, qui comptait alors plusieurs centaines de membres actifs. Ce groupe de suprémacistes blancs y a même connu une résurgence dans les années 1980 et 1990, ouvrant ainsi la voie à la montée des Oath Keepers, un groupe de nationalistes identitaires radicaux à la solde du Trumpisme et qui fait depuis régulièrement parler de lui. Je comprends parfaitement que nous n'avons pas de refuge en nombre suffisant à Grants Pass, a ajouté Mme Bristol sur les ondes de la radio publique de l'Oregon, OPR, en avril dernier. Les sans-abri doivent pouvoir dormir et exister quelque part. Or, si nous les expulsons des espaces privés et des espaces publics, cela rend finalement illégal le fait d'être un sans-abri. La ville de Grants Pass dit chercher activement des solutions pour sortir de cette crise. Un enjeu de taille. La répression contre les personnes vivant dans la rue et leur emprisonnement peuvent rendre plus difficile le retour à une stabilité et même leur sortie de l'itinérance, indique en entrevue depuis la ville d'Eugene la sociologue Claire Herbert, professeur à l'Université de l'Oregon. Grants Pass place la Cour suprême des États-Unis face à un enjeu de taille. Si les municipalités sont autorisés à distribuer des contraventions et des peines d'emprisonnement aux personnes qui dorment dehors, alors qu'il n'y a pas de lits disponibles dans les refuges. Cela va forcer les sans-abri à déménager dans des villes où de telles interdictions n'existent pas. Des migrations qui seraient contre-productives, selon plusieurs experts rencontrés par Le Devoir, puisqu'en éloignant des sans-abri de leur communauté d'origine et de leur tissu social, on réduit encore plus leurs chances de sortir de la rue. Une telle décision de la Cour suprême permettrait également à des villes de ne pas assumer leurs responsabilités face aux problèmes de logement dans leur communauté en pelletant le problème de l'itinérance chez leurs voisins, poursuit Mme Herbert. Ce qu'on appelle une crise des sans-abri est en fait une crise de gouvernance, ajoute pour sa part Tony Sparks, spécialiste de la géographie de l'itinérance, joint par Le Devoir, à l'Université d'État de San Francisco. Aux États-Unis, les règles d'inclusion et d'exclusion en matière de propriété et de logement sont des créations législatives qui relèvent de la compétence des décideurs politiques. Partout où le logement abordable n'est pas considéré comme un droit de la personne fondamentale, le sans-abrisme se répand. Une fatalité qui, il y a quelques jours, s'est arrêtée devant la tente de Laura Jutowski dans un parc de Grants Pass après que l'organisme Mint l'eût aidée à mettre la main sur un ensemble d'aides fédérales auxquelles elle avait droit après le décès de son mari en 2021, mais qu'elle n'avait jamais réclamé. La femme de 45 ans a commencé à camper dans les parcs de la ville après une panne de sa voiture il y a 10 mois. « Je vais d'abord aller déjeuner », a-t-elle dit après avoir ouvert, entre joie et larmes, les enveloppes reçues et découvert le montant de plusieurs des chèques que sont venus lui apporter les bénévoles de l'organisme communautaire en ce matin de mai. Et puis, je vais m'acheter un billet d'avion pour aller voir mes enfants et petits-enfants en Arizona. Mais surtout, je vais m'acheter une maison mobile pour pouvoir être finalement chez moi. C'était Grants Pass, la petite ville d'Oregon, au cœur des débats sur l'itinérance aux États-Unis. Un texte de Fabien Deglise, paru le 29 mai 2024, dans Le Devoir.
Maison Benoît Labre. La situation est pire que jamais près du centre d'injection et d'inhalation supervisée. Un texte d'Yves Poirier, paru dans le Journal de Montréal le 23 mai 2024. La situation est pire que jamais dans le quartier Saint-Henri à Montréal, là où a été ouvert un centre d'injection et d'inhalation supervisé à côté d'une école primaire. Un mois après le passage du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, en raison des difficultés de cohabitation, les citoyens continuent d'accumuler les vidéos d'événements troublants. L'une particulièrement inquiétante où on aperçoit les parents d'un bébé, locataire d'un immeuble voisin de la maison Benoît Labre, qui ont été obligés récemment de contourner un consommateur de drogue couché devant l'entrée. On voit d'ailleurs l'individu tenir une seringue. L'entrepreneur n'a toujours pas complété les travaux dans la cour avant de la maison Benoît Labre près de l'avenue Atwater, où se trouve l'entrée principale. Entre-temps, dans le même secteur, c'est un camping clandestin qui est apparu. Une piquerie à ciel ouvert, disent avec consternation les gens du quartier. En après-midi, lors du passage de TVA Nouvelles, il y avait un matelas par terre utilisé par un sans-abri. Un jeune homme qui y passe ses nuits, allongé sur une chaise, a également été aperçu. des scènes parfois étranges, choquantes et désolantes. Tout ça se déroule à deux pas du marché Atwater, une des attractions touristiques en ville. Les enfants vont être en sécurité, c'est sûr et certain, avait promis Benoît Doré au micro de Benoît Dutrisac. Certains citoyens ont néanmoins la chance d'occuper l'une des chambres de la maison Benoît Labre. Papy, de son surnom, a dû faire des changements importants sur le plan personnel, toutefois pour arriver là. « Il faut faire des sacrifices », a mentionné l'homme en entrevue. « Tu as des étapes à vivre et ils ne les feront pas ». Selon Papy, il faut que les usagers qui visitent la maison Benoît Labre arrêtent de consommer de la drogue, un sacrifice qui leur serait grandement profitable. Cri du cœur de la directrice générale de la maison Benoît Labre. Dans une déclaration écrite envoyée à TVA Nouvelles, la directrice générale de la maison Benoît Labre, Andréane Désilet, demande à la Ville de Montréal de mettre un terme au démantèlement de campings clandestins occupés par des itinérants, car cela exerce de la pression sur les organismes. Nous travaillons avec le SPVM et l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, EMIS, relativement aux enjeux de cohabitation à l'extérieur de notre terrain, a-t-elle soutenu. La position de la Ville de Montréal en lien avec les démantèlements met une pression immense sur notre organisme et les autres organismes, et nous craignons l'impact sur les personnes et les quartiers. Le 1er juillet sera assurément le pire. La Ville de Montréal va créer mardi un comité de travail. En réaction, le cabinet de la mairesse Valérie Plante dit qu'un comité de travail avec les principaux acteurs du milieu de l'itinérance sera lancé mardi le 28 mai 2024. Toutes les solutions seront mises sur la table pour tenter d'endiguer la crise, a indiqué l'administration Plante. On ne peut accepter que la solution à la crise des vulnérabilités soit de laisser nos concitoyens dormir sous une toile. La solution durable passe par la création de logements sociaux avec un soutien communautaire, des ressources 24/7 et un continuum de services. C'était Maison Benoît Labre. La situation est pire que jamais près du centre d'injection et d'inhalation supervisée. Un texte d'Yves Poirier paru dans le Journal de Montréal le 23 mai 2024.